grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. La COP 21, c'est la conférence des parties qui aura lieu du 30 au 11 décembre en France. Il s'agit de la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Tous les continents seront représentés à ce sommet. L'Afrique s'y prépare depuis un certain temps. Ce sommet consacré au changement climatique sera-t-il un sommet de plus? L'accord qui en sera issu sera-t-il réellement appliqué? Quels peuvent être les enjeux d'un tel sommet pour des pays comme le Mali, ces questions et bien d'autres constituent le menu du grand dialogue de ce mardi 24 novembre 2015. Alors, qui sont nos invités? Ils sont au nombre de quatre. Et nous avons, en premier lieu, nous avons quatre invités. Donc, nous avons Ousmane Ouattara, il est de Mali Fox Center. Bonsoir, monsieur Ouattara.
Bonsoir.
Nous avons Youssouf Diakité, journaliste environnementaliste. Bonjour, Diakité Youssouf.
Bonjour.
Bonsoir, disons.
Bonsoir.
Nous avons au téléphone, ce sera Madame Dambélé Aminata Kolefaye de la FENACOF. Je pense qu'elle nous entend. Bonsoir, madame. Et dans ce studio, nous avons Ahmed Sekou Diallo. Il est coordinateur de Réussir la décentralisation. Et on va dire donc plus précisément, il est le président de la PNACSC. Voilà, PNACED, c'est une structure qu'on appelle la plateforme nationale des acteurs de la société civile malienne sur le climat, l'environnement et le développement durable. On va donc retenir. Et bonsoir, monsieur Diallo. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. La COP 21 prévue en France du 30 au 11 décembre, on évoque ça et là, cette conférence comme un événement majeur, suivi l'importance du sujet sur lequel alors, elle porte, à savoir les changements climatiques. Les Africains semblent beaucoup attendre de ces sommets qu'ils préparent à leur niveau. Mais quels sont les enjeux de cette conférence des parties pour les pays comme le Mali? La question s'adresse en premier lieu à Ousmane Ouattara de Mali Folk Center.
Ok, merci M. Fomba. Et d'abord, avant de prendre la parole, c'est l'occasion pour moi ici d'avoir une mémoire par rapport à tout ce que le Mali vient de connaître ces derniers jours. Et nous prions pour le repos de l'âme des disparus, parce que c'est un événement, je pense que la majorité des Maliens sont dans une situation de négation, parce qu'on n'y croit pas. Mais il faut qu'on se réveille et qu'on se dise c'est seule l'action citoyenne qui va permettre au Mali de mieux se repositionner dans le concert des nations pour ce qui est des questions sécuritaires. Et pour en revenir à la question qui porte sur les enjeux des questions des accords de Paris pour ce qui est des pays africains, je pense que c'est au-delà de la question politique, je pense que c'est une question qui porte essentiellement sur l'existence même du continent en soi. Et je ne vais pas rentrer dans les grands débats qui sont développés par les scientifiques par rapport à la problématique climatique, mais je vais juste redescendre au niveau des communautés à la base qui, sans le savoir, vont voir leur destin se jouer à Paris. Parce que de plus en plus, nous pensons qu'il est extrêmement important que nous prévoyons des solutions qui puissent être à même d'apporter une réponse idoine aux questions de développement et surtout de développement durable. Et l'attente de l'Afrique, c'est que cet espace, cette conférence de Paris soit une solution qui puisse aboutir à un accord pour le meilleur devenir de l'Afrique, pour surtout son développement durable.
Alors, vous, M. Diallo, Ahmed Sekou, comment est-ce que vous voyez les enjeux de cette rencontre à Paris?
Merci beaucoup et permettez-moi de faire autant que mon collègue Ouattara, m'incliner devant la mémoire des disparus des derniers attentats et aussi prier pour un prompt rétablissement pour ceux qui ont été blessés. Et le Mali est en deuil, on peut dire que la sous-région et tout le monde est en deuil. Donc, nous inclinons vraiment devant tous ces faits-là.
Donc,
par rapport aux enjeux, les enjeux sont maus. Tout le monde s'attend à un accord enfin, au niveau de la COP21, un accord qui soit contraignant et qui prenne en compte les vraies aspirations des peuples, surtout les peuples les plus démunis, qui vivent les effets néfastes du changement climatique. Je pense aux femmes, je pense aux jeunes. Un accord qui promouvoir certaines les énergies renouvelables, par exemple, qui sont une réalité pour nous, Africains, parce que sans la promotion des énergies renouvelables, on ne peut pas parler de développement durable. Un accord qui finance le développement réel et qui finance aussi les couches les plus vulnérables. Donc, nous disons que pour nous, les enjeux sont maus et il faudrait que tout le monde parle d'une seule voix et que on puisse signer vraiment un accord contraignant cette fois-ci.
Youssouf Diakité, vous êtes journaliste, vous vous intéressez à tout ce qui est environnement. Je sais que ce qui doit se passer à Paris du 30 au 11, du 30 novembre au 11 décembre, ça vous intéresse beaucoup.
Oui, beaucoup, beaucoup. Mais moi, je peut-être je vais demander de revenir un peu par derrière.
Allez-y, on vous le permet.
Les enjeux de Paris sont exactement, je dirais, les mêmes enjeux que 2009 à Copenhague. À Copenhague, il y avait pratiquement, c'était la même représentation, il y avait pratiquement plus de 100 chefs d'État, dont la première puissance. Et donc, je suis tenté de faire une comparaison entre 2009 et 2015. Ça va se ressembler, parce qu'à la fin, en 2009, par exemple, est-ce qu'on a pu parvenir à un accord? Je pense pas. Donc, c'est aux conclusions de Copenhague, du Danemark, j'ai eu l'impression que les Africains sont là parfois à faire le tourisme. C'est mon œil d'observateur. Hein. Moi, je suis observateur, je suis pas technicien de l'environnement, mais mon rôle d'observateur me permet de dire que, quelque part, je crois qu'il faut aller à la profondeur de la question, sinon... les COP, ça ressemble un peu à du tourisme. Je ne sais pas si on est retourné réellement avec quelque chose de concret en 2009. Donc, ça nous intéresse à plus d'un titre. Depuis déjà quelques mois, nous sommes en train de suivre Paris à distance. À distance, même si ça a été menacé par les derniers événements aussi à Paris. Donc, vraisemblablement, je dirais que oui, on peut attendre beaucoup de Paris, mais au risque que ça ressemble à Copenhague à 2009, il faut que les Africains soient encore plus pointus dans les négociations, parce que les négociations ne sont pas faciles. Au moment où peut-être nous, quand je prends le cas de Mali, peut-être au moment où nous sommes à un négociateur, 2, 3, 10 négociateurs, peut-être les États-Unis sont à 100, 200, 300 négociateurs.
Mais je ne sais, quand même.
Voilà, je ne sais pas si, avec cet écart-là, si on peut réellement atteindre l'objectif recherché, c'est-à-dire arriver au développement durable. Si ça ne va pas ressembler à des documents qui finalement n'auront pas les résultats que nous cherchons.
Alors, nous avons en ligne Madame Dembélé Aminata Kolefaye de la FENACOF. Madame, dites-nous, il y a eu beaucoup de COP. Paris, est-ce que Paris sera une exception?
Bon, je vous remercie quand même pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Parce que, si je peux le dire ainsi, hein, les femmes ont été beaucoup mises en écart. Et la COP, moi, c'est la première fois que j'assiste à une COP.
Alors, dites-nous, madame, c'est au niveau national que cela arrive ou alors au niveau international, le fait que les femmes ne soient pas suffisamment représentées?
Bon, est-ce que ce n'est pas un peu au niveau national? Parce que c'est au niveau national qu'on doit faire la désignation. Bon, cette fois-ci, quand même, je salue l'initiative quand même du département qui a permis quand même la participation des femmes. Ce n'est pas le nombre de femmes qui va participer, mais pour une association féminine, ça quand même, c'est à saluer. C'est à saluer parce que ça fait des années quand même que nous travaillons avec l'environnement, surtout à travers les 15 et l'environnement qui se déroule chaque année au mois de juin. Et nous, notre participation, surtout, c'est par rapport aux différentes sensibilisations. Sensibiliser les femmes vers leur comportement qui a un impact sur l'environnement, les problèmes environnementaux et même les changements climatiques. Donc, on fait des échanges, on fait des démonstrations culinaires, il y a les gaz à effet de serre. On parle de beaucoup de choses, en tout cas, par rapport au climat. Alors, bon, c'est une première participation. Je pense que je vais récolter quelque chose. En tout cas, moi, je ne voudrais pas partir faire du tourisme. Je veux pour vraiment avoir quelque chose.
Vous partez optimiste, madame?
Je suis très optimiste. Bon, je suis un peu optimiste. Je pense que ça dépendra de moi-même. Parce que quand tu pars et que tu as en tête que tu pars pour un tourisme, tu ne reviendras pas avec quelque chose. Mais j'attends de voir comment ça va se présenter.
Et retour dans ce studio pour dire que le Mali, quand même, c'est très sûr, le Mali n'ira pas à ses sommets les mains vides. Mais comment se déroulent les préparatifs et qui s'en charge? Si nos invités en savent quelque chose, nous posons la question à Ousmane Ouattara de Mali Fox Center.
Je pense quand même que, comme l'a dit madame, je pense que cette année, il y a quand même une certaine facilité d'enregistrement et l'État a accepté de faire enregistrer beaucoup d'acteurs de la société civile comme délégués. Hein? Donc ça veut dire que il y a beaucoup de personnes qui seront dans la police des discussions, qui vont avoir accès aux salles pour pouvoir vraiment suivre le débat et après certainement avoir des discussions beaucoup plus sérieuses avec les négociateurs en aparté dans le couloir par rapport au suivi du débat. Ça, c'est quelque chose de très important. Le fait que le Mali ait accepté de pouvoir ouvrir cette porte, d'enregistrer beaucoup de nationaux, beaucoup d'acteurs de la société civile et des services de l'État à faire partie de la délégation malienne, je pense que ça l'a donné d'une volonté forte du gouvernement de pouvoir assurer une meilleure implication et, comment est-ce que je vais dire, une mise en commun de l'intelligence collective au profit du devenir climatique du Mali. Et donc, moi, je pense quand même que ça, c'est à saluer. Et je pense que cette année, le Mali souhaite vraiment être présent à la COP, pas juste être physiquement présent, mais présent par beaucoup d'initiatives qui sont en train de lancer par-ci, par-là, et pour pouvoir donner une position de la société civile, pour pouvoir donner la position du gouvernement malien par rapport aux questions de climat, et aussi, surtout, les grandes orientations qui sont en train de définir par rapport aux contributions nationales déterminées, qui sont un peu les engagements des États pour ce qui est de leur contribution à la réduction et au maintien de la température de l'univers, du globe terrestre à 2 degrés. Et nous espérons que cela pourrait être une bonne porte de négociation pour permettre au gouvernement de négocier sérieusement sur les questions d'énergie, comme l'a dit mon collègue. Ce serait une déformation professionnelle chez moi, mais tout ce qui touche à l'énergie me parle, parce que le Mali Folk Center et surtout le réseau climat sont des entités qui se disent que les solutions sobres, les stratégies de développement sobres en carbone sont les solutions pour l'accès des communautés en dehors des réseaux normaux, de se sentir dans un début de modernité et de déclencher l'amorce de leur développement, faiblement émettrice de carbone. Donc nous pensons quand même que ces deux axes seront quand même des éléments qui permettront une meilleure prise en compte de la position de la société civile et surtout de la définition de cette voie qui le gouvernement l'a définie pour pouvoir permettre une réelle participation de la société civile malienne.
Studio Tamani, 18h30, dans moins d'une minute, nous allons observer une pause.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, le débat du jour porte sur un événement important attendu donc à Paris. Il s'agit de la COP 21. Et pour en parler, nous avons dans ce studio trois invités, Ousmane Ouattara, Mali Folk Center, Youssou Diakité, journaliste environnementaliste, Ahmed Sekou Diallo, il est de la plateforme nationale des acteurs de la société civile malienne sur le climat, l'environnement et le développement durable. Et nous avons en ligne Madame Dembélé Aminata Kouale Faye de la FENACOP. Alors, nous étions en train de le dire tout de suite. Et vous avez parlé de ce que le Mali apporte avec lui à Paris. Alors, on n'a pas écouté M. Ahmed Sekou Diallo. Je le disais, c'est sûr que le Mali ne va pas les mains vides. Mais est-ce que vous avez l'impression que cette conférence a été sérieusement préparée au plan national?
Je crois que ça a été vraiment bien préparé, mais disons que préparer une COP est assez complexe. C'est des négociations de haut niveau et c'est aussi à sur plusieurs paliers que ça se prépare. C'est vrai que l'État, à travers le gouvernement, a préparé sa participation. M. Ouattara disait tantôt que le Mali fait partie des 170 pays actuels qui ont donné leur contribution par rapport à la protection de l'environnement.
On en parlera d'ailleurs après, un peu plus tard. Oui.
Donc ça déjà, nous nous disons que le fait de montrer la voie par rapport aux années à venir, comment le Mali va faire de telle sorte que les émissions soient réduites, bien que nous soyons les pays qui émettent le moins
de gaz à effet de serre.
Donc là, je me dis que c'est déjà bien. Mais l'autre niveau, l'autre palier, c'est au niveau de la société civile. Les acteurs de la société se sont organisés à plusieurs niveaux aussi, ont eu des rencontres et ont élaboré aussi leur position. Mais ce qui compte et qu'il faut dire, c'est que ce ne sera pas la position nationale qui sera déterminante, parce que il faut aller en bloc. Il y a déjà la position africaine et le Mali contribue à cette position africaine et le Mali aussi aura des alliés par des groupes stratégiques pour permettre aussi.
Il faut venir avec des arguments évidemment.
Mais des arguments, c'est les réalités que nous vivons. Les arguments, c'est les réalités que nous vivons. Par rapport au papier de position, par exemple, qui va servir de cadre, par rapport au document de négociation, vous verrez que à toutes les étapes. Le Mali a participé. Les experts des ministères ont participé à l'élaboration de ces papiers-là. Les négociateurs africains aussi ont participé. Mais aussi, au niveau de la société civile aussi, on a participé pour donner nos arguments. Mais c'est des choses qui peuvent changer à la minute même. Donc, c'est quand Youssouf parlait, par exemple, de délégations fortes, c'est ça aussi les négociations. C'est réellement pas du tourisme. Il l'a dit. Le moment où certaines partent avec de petites délégations, il y a des choses qui vont se dérouler, qui vont se négocier la nuit. Donc, si, par exemple, vous partez avec une petite délégation, quand les gens sont en train de dormir, d'autres sont en train de dresser des choses qui seront peut-être négatives contre vous. Le moment où on rentre, les délégations, par exemple, on dit que c'est le 13. Vous allez voir que les délégués africains, la majeure partie prennent leur billet et vont dire que le 13 ou le 14, ils rentrent. Souvent, les négociations sont prolongées. Ceux qui n'ont pas les moyens, les grandes puissances, jouent sur ces temps morts-là pour pouvoir écrire, par exemple, notre destin, parce que c'est eux qui vont décider. Nous, on serait rentrés et tout est décidé.
Alors, Youssouf Diakité, je crois que vous allez quand même vous rassurer un tout petit peu. Il semble que cette fois-ci, la COP
ça va se ressembler. Il l'a dit, ça va se ressembler. Par exemple, quand je reviens toujours sur le cas de Copenhague, c'est que le dernier jour, jusqu'à présent, les conclusions n'étaient pas tirées. Le dernier jour, il fallait prolonger. Ça trouve que l'argent que tu as, c'est fini. Tu n'as plus de moyens de payer l'hôtel, tu n'as plus les moyens de manger. Donc, les conclusions sont tirées au moment où toi, tu es dans ton pays. Donc, je crois que c'est compliqué. Ça demande une préparation très, très minutieuse au niveau national avec une forte implication du gouvernement. Je ne sais pas comment ça se passe avec la société civile, mais cet état de fait reste une réalité. Et c'est qu'au moment des négociations, on ne va pas se répéter. Mais au moment où vous êtes 10, il y a 200 personnes qui viennent au nom d'un seul pays. Vous dormez et ils font le relais. Ils font le relais. Il y a 10 qui sont fatigués ou 20 qui sont fatigués. Ousmane le savent très bien et il le sait très bien. Au moment où vous rentrez, vous êtes en train de dormir, ils sont en train de négocier, ils sont en train de tirer leurs conclusions. Ou encore, la question des moyens se pose. Au moins, vous n'avez plus les moyens de payer l'hôtel, vous êtes dans votre pays, les conclusions sont tirées. Donc, moi, je pense que ça va toujours se ressembler. Je ne suis pas pessimiste, mais ça va toujours se ressembler. Et en plus de cela, il y a un véritable problème de communication. On ne sait pas exactement comment ça se passe au niveau national. On ne sait pas. Je crois que la société civile, le gouvernement, je ne sais pas hein, s'ils sont ensemble. En tout cas, moi, avec mon nez d'observateur, je crois que chacun est en train d'aller de son côté.
Alors, je le disais, Madame Dembélé Aminata Kolefaye, la Finacof est en ligne. Madame Dembélé, est-ce que vous pouvez un peu nous parler, nous dire ce que vous savez de la manière dont ce sommet a été préparé au niveau national ici au Mali?
Bon, je pense qu'au niveau national, comme l'a dit mon présentateur, il y a beaucoup d'experts quand même qui se sont réunis pour préparer cette COP. Et au niveau de la société civile aussi, il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de réunions quand même pour parler de la participation de la société civile. Parce qu'on doit saluer vraiment cette participation. Comme il vient de le dire, hein, il ne faut pas que nous soyons les dindons de la COP. Parce que c'est les grands qui vont négocier. Et finalement, nous serons là pour accepter ceux qui vont négocier. Et ils seront en surnom. En surnom, ils ont le temps de faire beaucoup de choses, de se relayer. Alors que nous, avec le nombre qu'on va présenter là-bas, je pense que ce ne sera pas évident. Et comme il l'a si bien dit aussi, il y a le temps qui nous est imparti, on ne peut pas gérer tous les problèmes. Et finalement, ceux qui ont de l'argent sont obligés de rester. Et nous qui n'avons, qui sommes là, qui sont vraiment les parents pauvres, on est obligé de rentrer. Et c'est des trucs qu'on va nous parachuter sans qu'on puisse intervenir. Donc, moi, je veux que cette fois-ci, et là, en tout cas au niveau de la société civile, on essaie de lever la voix. La voix, parce que c'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons, c'est la communauté qui souffre. Et c'est nous qui sommes à la base. Il faut que la base comprenne ce qui se passe. Et je remercie quand même le ministère pour quand même notre implication, et je pense qu'on
ne
sera pas
des touristes
là.
Cela est bien compris, madame. Alors, retour dans ce studio. On sait qu'à l'occasion quand même de cette conférence, comme les fois précédentes, les pays ont rendu public leur contribution. Il s'agit des décisions prises au niveau national. Il faut d'ailleurs signaler qu'il ne s'agit pas encore d'engagement à ce niveau. Le Mali a déposé donc sa contribution nationale à la COP 21 en fin septembre. Est-ce que vous savez quelque chose du contenu de ces documents, M. Ouattara?
Je voudrais, avant d'aborder cette question, rapidement revenir. En fait, les négociations de la COP, il ne faut pas que ce soit réducteur simplement à la période de la COP. Parce que les négociations, le texte préliminaire, il est sorti il y a longtemps. Donc du coup, la société civile et les États ont largement le temps de constituer leur argumentaire pour pouvoir mieux se positionner. Ce n'est pas au moment de la COP qu'on prépare la négociation de la COP. Donc très souvent, au moment de la COP, cela trouve que tous les pays ont connaissance du texte. Et déjà, les experts sont déjà partis. Ils ont commencé à travailler déjà avant la rencontre des ministres de l'Environnement sur la question. Donc pour dire, il y a un processus qui est lancé et le rôle de la société civile, c'est toujours d'attirer l'attention des États sur des questions de développement qu'ils constatent au quotidien dans leur vie avec les communautés comme animateurs d'interface sociale. Donc pour revenir à la question des CPDN, je pense qu'on a participé à un certain nombre de réunions avec le ministère de l'Environnement. Et aussi, j'étais à Dakar il n'y a pas longtemps où il y avait une réunion de la CDAO sur la question, où il y avait une analyse comparative des CDA, des CPDN des différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Bon, disons mon pays déjà, le Mali est pratiquement le champion dans cette question, il a la contribution la plus élevée. Mais en ayant le recul en tant que société civile, je pense que l'un des éléments qu'il faut vraiment voir, c'est en quoi est-ce que cette CPDN peut apporter une réponse efficace? Si ça devient un outil juste pour dire on va améliorer l'accès aux solutions d'énergie basées sur les ressources ligneuses, les fourneaux et autres, je dis mais on doit avoir plus d'ambition. Les CPDN doivent regarder plus loin. C'est pas en faisant un calcul sur un fourneau qu'on peut dire que on doit commencer à regarder de plus en plus sur, par exemple, des solutions d'accès aux technologies. Et ces solutions d'accès aux technologies vont être des éléments qui vont améliorer l'environnement, les infrastructures économiques de nos milieux ruraux et permettre à ces communautés d'avoir de la valeur ajoutée sur leur production. Je me permets d'avoir cette analyse parce que c'est extrêmement important. Parce que quand on le lit comme ça, c'est juste que le secteur simplement de l'énergie domestique a un grand pourcentage. Et là, moi, je me dis, le secteur de l'industrie aussi doit avoir un grand pourcentage. Là, ça va déterminer la dynamique économique pour ce qui est de la création des richesses au niveau du pays. Ça, c'est juste le petit commentaire que j'avais par rapport au CPDN. Sinon, je trouve que le document, comme l'a dit les gens du ministère, a besoin d'être parfait encore. Quand j'étais parti au Sénégal aussi, et aussi, ils disaient qu'ils n'avaient pas encore fini. Donc, j'ai l'impression que c'est un travail aussi qui a été fait dans la précipitation. Donc, ça veut dire que les éléments qui sont dans ce dossier doivent être revus. Mais c'est intéressant parce que si tu regardes, il y a une évolution de la COP de Copenhague à maintenant, parce que c'était le MDP, le protocole de Kyoto qui était contraignant. Après, les États, on veut les imposer des choses. Ils ont dit non, tous les pays peuvent décider de ce qu'ils peuvent apporter comme contribution. Ça, c'est déjà un grand pas. Donc, du coup, ça veut dire que c'est le pays qui décide de ce qu'il peut apporter comme contribution pour ce qui est du maintien de cette température au niveau souhaité et indiqué par le GIEC, qui est le groupe d'experts sur le climat. Donc, moi, je dis, au-delà de tout, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place et il faut construire ce qui est en train de se mettre en place.
Effectivement, à ce niveau, il y a une avancée quand même qu'il faut noter parce que au moment où on créait notre petit réseau de journalistes, quand je posais la question aux gens par rapport à l'environnement ou à l'assainissement, en tout cas, quelques questions que ce soit par rapport à l'environnement, on me disait, mais toi là, tu nous dégages. Les gens ont faim, on n'a même pas trouvé à manger, toi, tu nous parles d'environnement. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Donc déjà, ça c'est... Mais aujourd'hui, je crois que ça intéresse tout le monde, déjà, même à la base. Ça, c'est extrêmement important. Les sommets encore, les COP, ça c'est à un niveau plus élevé. Mais quand on redescend un peu, même dans les quartiers à la base, je crois qu'il y a une prise de conscience qui commence à être effective. Voilà.
Ahmed Sekou Diallo.
Bon, moi je dirais que je ne suis pas tellement d'accord avec Youssouf quand il dit que c'est connu à la base. Bon, le changement climatique c'est connu à la base parce que les gens vivent le changement climatique. Mais maintenant, tout ce qui se fait au niveau de l'État, on a parlé des contributions. Est-ce que les populations à la base ont été consultées quand on élaborait? Est-ce que le document a été partagé au niveau région, au niveau SAC, au niveau village? Non. Est-ce que ça a été partagé au niveau des acteurs de la société civile pour que les acteurs se l'approprient et puissent le vulgariser? Non. Donc, il y a un travail mouse à faire. L'État, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que une frange de la société civile participe, mais on doit trouver des stratégies de communication de telle sorte que tous les acteurs s'approprient ces documents de politique et puissent les vulgariser. Et mieux, en les élaborant, au lieu d'être au ministère et élaborer ces documents de politique, allons à la base, allons au niveau commun. Mettons ça mettons tout ce que nous voulons entreprendre dans nos plans de développement communal, montons au niveau cercle, au niveau région et finissons par les plans nationaux. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, maintenant, par rapport pour dire que les populations vivent vraiment les réalités du changement climatique, c'est pourquoi nous disons que c'est vraiment un problème de justice. L'affaire de changement climatique. Les programmes qu'on doit mettre en œuvre, en place actuellement, doivent répondre aux réalités des droits humains du genre. Si on intègre dans tous nos programmes ces aspects-là, on va vaincre le développement et en même temps, on va répondre aux effets néfastes du changement climatique.
Ok. Très bien. Alors,
juste deux mots avant la pause. Oui. Deux mots.
Oui, ça va là. Non, je voulais dire, on se rejoint, parce que dans la première intervention que j'ai faite, j'ai dit, il y a un véritable problème de communication qui se pose. Ça, c'est un élément. Mais l'autre élément, quand j'ai rejoint Ousmane, c'est que déjà, j'ai dit, au moment où on mettait le petit réseau en place, quand on posait les questions d'environnement aux gens, c'est qu'ils nous disaient, mais dégage. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc déjà, il y a une petite prise de conscience qui s'est effectuée. Mais quant au problème de communication, ça se pose de façon cruciale. Et l'association des gens à toutes ces initiatives-là, ça c'est extrêmement important. Et ça c'est le problème de communication qui se pose. Et je, dans le temps, moi je l'ai dit à tous les ministres de l'environnement, et je crois qu'au moment où on était à Copenhague, l'autre ministre qui était là-bas à l'époque a pris conscience et dans tous les documents qu'il préparait en ce moment, il mettait la communication devant. Donc déjà, je crois que ça, ça doit continuer, cette lancée doit continuer et même au niveau de la société civile.
La suite de ce débat pas dans un instant.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
La COP 21, c'est d'elle que nous parlons dans le grand dialogue de ce mardi. Nous avons Madame Dembélé Aminata Kolefay de la FINACOF qui est en ligne. Madame, est-ce que vous pensez que concernant l'environnement, la communication se fait à hauteur de souhait au niveau de la base?
Bon, je rejoins un peu les autres. Il y a un peu un problème de manque de communication parce qu'il y a beaucoup de choses dont vous avez parlé tout de suite dont nous ne sommes pas informés. Et comme moi, je suis un peu dans l'environnement de mon vouloir hein, par rapport à travers mon association. J'participe à toutes les quinzaines, donc je suis tous les programmes de concernant l'environnement. C'est comme ça que j'ai été invitée à la COP parce que j'ai émis vraiment l'envie de connaître et d'informer la base. Parce qu'on a fait beaucoup de, comme vous l'avez dit, on a fait beaucoup de sensibilisation au niveau des femmes, mais la communication manque. Parce que c'est, nous on parle, je vois qu'on parle, on parle d'environnement que pendant la quinzaine de l'environnement. Au-delà de ça, on n'en parle plus. Et je pense qu'il faut qu'on dépasse ça, qu'on essaie de voir, comme les autres l'ont dit, qu'on essaie de faire un plan de développement au niveau communal, essaie de communiquer, que tout le monde soit au même niveau d'information. Parce qu'il y a certains éléments que nous ne maîtrisons pas. Mais quand il y a la communication, je pense qu'on sera au parfait des choses. Ah. Et donc, oui.
Allez-y.
Ah oui. Donc, moi, ce que je propose quand même, qu'il y ait cette communication, qu'on essaie de voir comment peuvent communiquer avec la base. Parce que c'est la base qui est là. La base, tant que la base est informée, quand il n'y a pas de changement de comportement au niveau de la base, tous les efforts resteront vains. Merci.
On sait qu'à cette conférence, la question de l'adaptation et de l'atténuation occupera une place de choix, de même que celle du financement. On parle d'une compensation de 100 milliards de dollars à l'horizon 2020. On est déjà à combien à ces jours, Monsieur Ouattara? Est-ce que vous pouvez nous répondre?
Bon, j'avoue que j'ai pas une idée claire du montant qui est décaissé. Je me rappelle plus parce que on était dans l'atelier du PNACED et le chiffre avait été donné, mais bon.
Bon, quelque part quand même, je lisais qu'en 2014, un document parlait de 61 milliards à peu près.
Ouais.
Voilà.
La COP permettra de mobiliser d'ici la COP. Normalement, c'est pratiquement mobilisé. Mais est-ce que c'est suffisant par rapport à tout ce qu'on vit?
Alors, monsieur le journaliste, vous pensez qu'il y aura une mobilisation un peu plus forte après Paris?
Bon, c'est possible si les gens s'y mettent, parce que c'est une question de volonté aussi. Ça demande beaucoup de travail en amont, oui. Voilà, ça demande beaucoup de travail en amont. Si les gens... Si on est volontaire, je crois qu'on peut mobiliser plus. C'est toujours possible. Voilà. Mais si Diallo pouvait nous donner plus de précisions par rapport... Parce que l'annonce avait été faite en 2009, c'est bien ça. On ne sait pas exactement à quel niveau de mobilisation effectivement on est. Il y avait 100 milliards, 30 milliards. Voilà, on ne sait pas exactement où
on est. Les dernières annonces, quand même, on parle des 100 milliards qui ont été atteints. Et à partir de là, maintenant, il y aura une répartition. On parle de 50% pour l'atténuation et 50% pour l'adaptation. Bon, nous, au niveau de la société civile, notre débat, c'est que normalement, il ne doit pas y avoir 50%.
Pour l'atténuation, 50%. Kif-kif.
Parce qu'actuellement, nous vivons déjà les effets du changement climatique. Et pour pouvoir répondre positivement et de une pour pouvoir donner une réponse appropriée, pour nous, il faut aller à l'adaptation. Donc, les aspects d'atténuation n'intéressent pas trop l'Afrique. Pour nous, ça intéresse, c'est l'adaptation d'abord. Et c'est pourquoi nous insistons sur les programmes de développement, que vraiment que les fonds destinés au changement climatique financent les programmes de développement de nos pays. Et que nos dirigeants se consacrent réellement au développement des populations, notamment les populations les plus vulnérables, les femmes, les jeunes. Et autres. Bon, maintenant, le reste pourra suivre. Parce que au niveau de l'atténuation, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? On pouvait avoir de grands programmes, par exemple pour l'agriculture avec grand A. Mais ce qu'on voit le plus souvent dans nos pays, quand on développe de grands programmes, c'est plutôt l'agrobusiness qui est développé contre l'agroécologie ou bien l'agroforesterie qui pouvait aider nos populations à être. Mais ce qui va se passer, c'est les gros industriels qui vont venir, eux qui polluent, qui vont venir exploiter nos ressources, faire de l'accaparement des terres et puis au contraire appauvrir nos sols. Parce que les technologies qu'ils vont amener, ce sera pas... C'est le plus souvent contre la sécurité alimentaire. Donc ça amène plus de problèmes que ça n'en résout.
Alors, le Mali figure parmi les G77, le groupe des pays les moins avancés. Il émet seulement 0,06% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le pays a annoncé 29% de réduction pour l'agriculture, 31% pour l'énergie et 21% pour les forêts. On dit aujourd'hui que le Mali se concentre sur son fonds climat pour financer des projets. Et peut-on en savoir plus, Monsieur Ouattara?
Par rapport à la question de, je pense, c'est ce levier financier pour pouvoir apporter une réponse efficace pour ce qui est de sa contribution. Je pense quand même que, essentiellement, en tout cas de ma connaissance, le seul mécanisme sur lequel le Mali compte actuellement, c'est ça, c'est le fonds climat qui a été mis en place grâce à. Je pense que la coopération suédoise a déjà mis un certain nombre de montants là-bas pour pouvoir déjà financer un certain nombre d'initiatives. Mm-hmm. Mais il est important quand même que, je le redis encore, que le CPDN soit extrêmement ambitieuse et qu'elle soit quand même un outil qui serve à identifier les vraies priorités de développement et qu'elle soit pas des actions de développement entre guillemets politiques, mais que ce soit des actions de développement qui soient une réponse à un besoin réel des communautés à la base. Et que ces gens, je le redis encore, se sentent dans un début de développement et de modernité.
Alors, pouvez-vous nous parler de quelques projets financés sur le fonds climat du Mali?
Je pense que le réseau climat est membre de la commission de sélection. Je pense qu'il y a un certain nombre de projets qui avaient été financés déjà dans la zone forestière de Bougouni-Yanfolila. Je n'ai pas très bien dit concrètement sur quoi le projet est en train de faire. Mais il y a le second round qui avait été lancé, mais je pense qu'il a été reporté pour des raisons de procédure et de sélection, parce que à la dernière réunion, je pense que la coopération suédoise avait demandé de mieux définir les règles d'application pour que tout le monde puisse aller dans les mêmes conditions par rapport à l'accès à ce fonds.
Ahmed Sekou, Ahmed Sekou Diallo.
Bon, là, ce qu'il dit, c'est absolument vrai. Mais là, nous, ce que nous disons, c'est lancer un appel pour qu'il y ait vraiment la transparence dans la gestion des fonds. Quand on met en, parce que le Mali a pris une initiative qui a été très salutaire. Partout, on a dit que bravo.
C'est quelle initiative?
La mise en place du fonds climat. Mm-hmm. Parce qu'on a été en avance par rapport à beaucoup de pays. C'était une référence. Mais comme il l'a dit, depuis que le fonds a été mis en place à maintenant, on ne peut pas de manière transparente nous dire combien de structures ont été financées, comment ça a été financé, qu'est-ce qui est fait des fonds. Et ça traîne des fonds qui devaient être utilisés depuis très longtemps et même renouvelés, tardent à être utilisés. La société civile est là, les projets sont là, le besoin est là, les populations sont en train de souffrir des aléas du changement climatique, on n'arrive pas à aller. Donc, on demande vraiment une volonté politique renouvelée et une transparence dans ces fonds-là. Vraiment, la société civile fait son cri de cœur, quoi. On n'a rien compris à cette étape-là.
En addition, je pense quand même qu'il y a une spécificité de ce fonds-là qui, moi, personnellement, me frustre un peu. Parce que les institutions des Nations Unies, c'est un fonds qui est mis en place pour le Mali. Ce n'est pas mis en place pour les institutions des Nations Unies comme le PNUD, la FAO et autres. Ils ont leur levier, leur créneau de mobilisation des ressources. Mais l'une des conditionnalités de ce fonds, c'était que la société civile devait venir en consortium avec des institutions onusiennes. Et là, personnellement, je suis en train de me poser la question, pourquoi c'est un fonds pour le Mali, mais c'est... Excuse-moi, mais ils ont qu'à aller chercher eux-mêmes leurs fonds pour faire leur développement et qu'ils laissent les Maliens. Voilà, ils sont venus pour le Mali, mais c'est vrai. Mais bon.
C'est logé où le fonds
L'AIDD.
Alors, Youssouf Diakité, le fonds climat pour le Mali, sa gestion demande quand même une certaine transparence. Ça, c'est un peu votre affaire à vous.
Oui, ça, c'est pourquoi, d'abord, derrière la communication et le parent pauvre. Parce qu'ils demandent la transparence, on va communiquer là-dessus. On en a parlé, hein. Quand ils parlaient du fonds climat depuis là-bas, mais depuis qu'on est arrivé, quand on approche les messieurs pour demander quelques informations que ce soit, on dit « Attends, il faut... Non, il faut revenir. » Parce qu'on ne veut pas que ça se sache. Donc ça, à ce niveau, la communication devient... Le parent pauvre, peut-être à ce niveau, on peut bien collaborer avec la société civile pour donner plus d'informations par rapport au déroulement du fonds, comment c'est géré. Normalement, ça doit être porté à la connaissance de tout le monde. Ça c'est la moindre des choses. Donc, peut-être on va trouver d'autres mécanismes pour s'informer, pour porter l'information au grand public. Donc, je le répète toujours. À ce niveau, la communication reste le parent pauvre de la chose.
Alors, nous allons donc conclure. Pour ce faire, nous allons donner la parole à Madame Dambélé Aminanta Koulé-Faye de la FENACOF. Le mot de la fin, Madame.
Bon, avant de donner le mot de la fin, je vais un peu intervenir par rapport au fond.
Allez-y.
Association féminine, moi, je ne sais pas sur quels critères ils se sont basés quand même pour les choix des associations féminines, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui œuvrent dans l'environnement, dans le secteur du climat. Mais on ne sait pas, jusqu'à présent, comme il l'a dit, il y a un manque de communication. Et moi, je voudrais dire à M. Diallo, si nous, pour la société civile, on peut former un bloc pour vraiment aller les rencontrer, qu'on parle carte sur table sur vraiment la façon dont sont distribués ces fonds, sont alloués ces fonds.
Vous voulez voilà. Rencontrer les Nations Unies, c'est cela?
Non, l'AIDD. Bon, à l'AIDD, oui.
Alors, donc, bon. Allez-y, juste deux mots, madame, avant de finir, oui.
Bon, c'est ce que je voulais vous dire, hein. C'est ce que je voulais vous dire, parce que nous, on n'est pas tellement informés de ce fonds. On n'a pas été contactés.
Madame, appuyez-vous aussi sur l'aspect communication, c'est extrêmement important.
Très important.
Oui.
Alors, je crois que cela est compris. C'est sur ces mots justement que cette émission prend fin. Je rappelle que le thème du jour, c'était la COP 21. L'événement, c'est à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Alors, pour parler de ce sujet et combien intéressant, nous avions quatre invités. Ousmane Ouattara de Mali Folk Center, Youssouf Diakité, journaliste environnementaliste, Madame Dambélé Aminata Koulé-Faye de la FENACOF et Ahmed Sekou Diallo, qui est donc de la plateforme, le président de la plateforme nationale des acteurs de la société civile malienne sur le climat, l'environnement et le développement durable. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba, réalisation Ousmane Djadje Touré, mise en onde Péting Djara. Alors, on se donne rendez-vous demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.